l'éclatante lumière rouge du signe de sa venue. Prêché le 23 juin 1963 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Restons debout pendant un moment et inclinons la tête pour la prière. À toi, notre Père céleste, nous adressons nos louanges pour tout ce que nos yeux ont vu et tout ce que nos oreilles ont entendu. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es le même grand Dieu, Jéhovah, aujourd'hui, que tu as toujours été et que tu seras toujours. Nous te remercions pour Jésus-Christ, qui a rendu possible notre retour à la divine communion avec toi, en répandant son sang innocent, pour que par l'expiation de ce sang, nous puissions être maintenant fils et filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n'est pas encore évident, mais nous savons que nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et Père, cela nous suffit amplement du moment que nous sommes comme lui, dans la forme de son image. Et maintenant, Père, nous ne voulons pas à cette heure être conformes aux choses de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, pour qu'il puisse venir et prendre notre propre vie dans ses propres mains, et nous conduire et nous guider pour les jours que nous devons encore passer sur cette terre, et glorifier son grand nom. Nous te remercions pour toutes ces choses, et plein d'espérance, nous attendons ta visitation ce soir, alors que nous sommes rassemblés maintenant, croyant que tu viendras nous rencontrer comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Asseyez-vous. Je crois que c'est David qui a dit, « Je suis heureux quand ils nous ont dit, quand ils m'ont dit, entrons dans la maison du Seigneur. » Et nous sommes très reconnaissants d'être ici ce soir, et je considère que c'est un grand privilège d'avoir cette occasion unique d'être ici et de parler avec vous tous. J'enregistre quelques bandes magnétiques, aussi je regarde au fond de la salle pour voir si les frères ont les bandes. C'est très maintenant, les bandes tournent très bien. Je fais cela parce que j'avais promis que j'enverrais des messages qui seraient enregistrés ici au tabernacle. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose au sujet de la réunion de ce matin. Aujourd'hui, immédiatement après-midi, ou plutôt quand nous terminerons la réunion du matin, quelque chose arriva que peut-être certains d'entre vous qui n'étiez pas là ne savent pas. Je finissais le service et j'avais observé un frère pendant que je parlais sur cette estrade qui était debout ici et qui serrait la main des gens. Il s'appelait le frère West. Nous l'avons appelé ici. Sa femme est une infirmière diplômée, frère West est un serviteur de Dieu. Et il a aussi une situation dans le monde. Mais depuis des années, il se sent appelé comme missionnaire. Il s'est senti conduit ici par Dieu et il attend à ce poste jusqu'à ce qu'il reçoive d'autres ordres pour aller de l'avant. Il y a quelques jours, je parlais avec lui et sa femme. Et ce matin, alors que j'avouais avoir des complexes, je parlais de frère West qui avait des complexes aussi, ce qui est certainement normal pour tout le monde. Et à ce moment, un moment après cela, frère West fut frappé d'une crise cardiaque et tomba mort par terre. Et j'ai vu sa femme et j'ai remarqué... Je me suis trouvé auprès de beaucoup de gens mourants et je ne suis pas obligé de dire ceci. J'aime exalter Jésus-Christ et sa puissance. Mais à ce moment-là, je pense que je n'aurais jamais essayé de l'exalter en aucune manière pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais j'ai vu Jésus-Christ ressusciter des morts plusieurs fois. Des docteurs infaillibles certifient. Par exemple... tout récemment, dans une réunion dans le Connecticut, dans une grande salle très connue, il y avait un docteur en médecine nommé Bakhtin, un médecin chrétien sur l'estrade avec moi, et il y avait une belle femme chrétienne riche et très connue. Elle était assise à ma gauche, et j'appelais la file de prière, et tout d'un coup, je remarquais la femme. Quand le cœur de quelqu'un s'arrête, vous pouvez fermer les yeux, mais quand vous êtes frappé à mort, quand votre cœur s'arrête, vraiment, vos yeux se révulsent, et on ne voit plus que le blanc de l'œil. Et je l'ai remarqué, quand elle s'est effondrée. Et on appela un médecin en hâte, et il a couru vers elle pour prendre son pouls, et il secoua la tête. Il posa sa main sur elle, il écouta son cœur, mais elle était morte. Elle s'écroula sur le plancher et sa fille hurlant interrompit la réunion. Je continuais parce que je n'avais aucun mot du Seigneur pour cette femme. Et je continuais. On a dit qu'il fallait m'appeler et on répondit, nous ne voulons pas l'appeler pendant la ligne de prière parce qu'il est sous l'inspiration. Et on a dit, appelez le petit Branham. C'était Billy. Et Billy, la femme étant morte, n'a pas voulu. Et vous savez, comme les gens sont soupçonneux quand quelqu'un est mort. C'est simplement une impression, cela ne signifie rien. Mais les gens ont de drôles d'idées. La personne n'est pas là elle-même, ils sont impressionnés. C'est pourquoi ils avaient peur d'aller près de la femme parce qu'elle était morte. Et alors, immédiatement, le Saint-Esprit me parla et je quittai l'estrade. Je descendis les marches et je me suis approché de l'endroit où elle était. Et aussitôt que je me dirigeais vers l'endroit où elle était, le Saint-Esprit me parla et je dis, « Marie !» Elle dit, « Oui, frère Branham, elle était très bien. Elle ne nous avait jamais vus auparavant. Elle était pour la première fois à la Réunion, puis à Chavano tout récemment, il y a ou à peu près 4 ou 5 ans, je parlais un soir à l'armurerie et il y avait une grande foule de gens et un vieillard d'environ 80 ans, je pense, et cette très jolie femme, ils étaient de croyance luthérienne et fréquentaient la célèbre église luthérienne de l'endroit. J'ai oublié son nom maintenant. C'est la plus grande église luthérienne en Amérique. Et cette ville est très luthérienne. Et pendant que je parlais, je remarquais l'homme, sa tête se renversant comme cela, ses mains se pendirent. Il tomba en avant, mort sur sa chaise. Et sa femme commença à hurler. Elle hurlait, « Au secours, quelqu'un, au secours, quelqu'un !» Et je regardais, et je dis, « Que tout le monde reste assis, restez tranquille, vous voyez ?» J'attendais que le Seigneur me dise quelque chose. Vous savez, Satan fait ces choses. Je les appelais la ligne de prière, et c'est à ce moment précis qu'il a voulu se montrer. Aussi, avez-vous remarqué que lorsque vous commencez de faire mettre les fidèles en ligne, même les petits bébés commencent à crier des choses de ce genre, c'est Satan. Amen. Vous qui êtes pieux, vous comprenez alors que le Seigneur m'a donné son nom et je l'ai appelé. Il a repris connaissance simplement comme cela. Et ce matin, quand je me suis retourné, vous voyez, et j'ai vu très souvent le Seigneur ressusciter des morts, le petit bébé à Mexico, mort à 9h du matin, et il était environ 10 ou 11 heures du soir quand il est revenu à la vie. Et c'est un témoignage de valeur avec un certificat médical, vous voyez, affirmant que le bébé ce matin-là était mort dans son bureau à 9h de la pneumonie, je crois. Et à ma connaissance, le bébé vit encore aujourd'hui, et cela s'est passé devant 30 ou 40 000 personnes. Et puis ce matin, j'ai vu notre frère West, pendant qu'il s'installait, ici alors. Mais alors qu'il s'installait ici quelque part, il était debout et nous chantions « Gloire, gloire, alléluia !» Et nous nous serrions les mains. Et je l'ai remarqué quand il fut frappé, sa tête s'est renversée en arrière. Et frère West n'a pas l'habitude de s'évanouir ou de se laisser aller à des choses de ce genre. Et je l'ai vu tomber en arrière. Et j'ai vu sa femme, qui est une infirmière diplômée, lui tâter le pouls. Elle cria, il n'y avait plus de pouls. Alors je crois que c'était la sœur Nash, une dame ici, une sœur de couleur, qui vient à l'église. Quelques personnes commencèrent à se précipiter en avant. Et alors, elle, Madame West, essayait de me rejoindre ici, sur le podium, et je dis, « Restez tous tranquilles, restez assis, ne vous énervez jamais dans de telles circonstances. » Voyez, c'est ce que veut Satan. Attendez simplement la suite des événements. Si c'est quelqu'un qui entre dans la gloire, bien, nous devons tous y aller un jour. Il n'y a pas de meilleur endroit que l'église. Aussi, alors juste dans la maison du Seigneur. Mais l'homme revenait. Je pensais que peut-être quelque chose était, qu'il s'était évanoui ou que quelque chose lui était arrivé. Mais quand je regardais que sa tête se tourna comme ceci et qu'on y voyait l'intérieur de ses yeux révulsés, vous ne pouvez pas vous mettre vous-même ou mettre vos yeux dans cette position. C'est l'arrêt du cœur qui fait cela. Et je passais outre. Il y avait quelqu'un, une aimable personne qui avait posé quelque chose pour poser sa tête et ses pieds, ses mains, et tout son corps était raide. Il s'arrêta. Son visage était aussi noir que mon veston, d'un noir rouge, rougeâtre, et ses yeux révulsés. Et je connais les crises cardiaques. Je sais ce qu'elles font et comment elles tournent. Et n'importe qui en a vu, aussi, je tâtais son pouls. Il n'y avait pas plus de pouls qu'il n'y en a eu ici sur ce bureau. Rien! Et voici sa femme, une infirmière diplômée qui lui tâte le pouls. Il n'y avait pas de pouls. Puis l'autre jour, pendant que j'étais avec Frère West, durant une ligne de discernement, j'ai vu que certainement, il avait un cœur faible. Alors j'ai pensé, c'est ainsi. Aussi, je posais mes mains sur lui et je dis, « Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'appelle l'âme de mon frère, redonne-lui la vie. » Et le Seigneur le sait, sa Bible est ici devant moi. J'ai senti, quand j'ai mis ma main sur son pouls, je sais que je devrais répondre de ce que j'affirme au jour du jugement si je mentais. Je sentais comme si son pouls battait 4 ou 5 fois plus vite. Il faisait pan, 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 et puis il s'emballait, puis recommençait, pan, 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 et il essayait d'ouvrir la bouche pour me dire quelque chose, et il essayait en vain de me dire quelque chose, et enfin les mots sortirent, frère Branham, puis il eut l'air de vouloir recommencer à dormir, ou quelque chose comme cela, et j'attendis un moment, je contrôlais son pouls, et il battait normalement, puis je le regardais de nouveau, et il me regardait, il était comme hors de lui, il ne savait pas où il était, mais son cœur battait normalement. Et Dieu l'avait ramené à la vie.
Amen.
Aussi, je dis cela en honneur de Jésus-Christ, qui est le même Dieu. Quand ce matin, j'ai prêché longtemps, bien au-delà de mon temps, et que j'étais fatigué et épuisé, deux choses étaient possibles. Ou bien il s'est senti fatigué, ou quand j'ai parlé des gens qui avaient des complexes, pas simplement pour troubler mes frères, comme on l'a dit, parce que je faisais ma confession d'avoir des complexes, eh bien, je pense que si ce soir, je vous demande à vous tous rassemblés ici, combien ici présents savent qu'ils ont un complexe? Pratiquement tout le monde lèvera la main. Cela, vous devriez le savoir. Frère West, laissez-moi simplement vous montrer que c'est la connaissance de soi. Maintenant, combien savent qu'ils ont un complexe? Levez la main. Regardez, vous voyez. Mais je ne sais pas si c'est le choc de ce que j'ai dit cela au frère West, qui pouvait penser que je dis cela pour le blâmer ou quoi que ce soit. Alors il passa dans cet état et le Seigneur Jésus le ramena à la vie. Maintenant je pense que c'est le même grand Dieu que saint Paul représentait à son époque, qui alors qu'il prêchait très longtemps un soir, un homme tomba, il avait perdu la vie, et Paul se pencha sur l'homme par la grâce de Dieu, dit à l'assemblée, la vie est en lui. Je pense que cela prouve, ou si vous ne le saviez pas, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et alors, cela aurait pu être aussi que j'ai essayé d'y penser cet après-midi, que j'étais là debout devant vous et je vous ai dit la vérité de tout mon cœur et je vous ai parlé de mon complexe et j'ai fait ma confession publique et je vous ai demandé de prier pour que le plus profond de mon être soit changé vis-à-vis de mon prochain, afin que je puisse faire comme le Seigneur a fait et pour vous confirmer qu'il m'enverrait encore en mission. Il a permis que cela arrive, pour montrer qu'il guérit encore les malades et ressuscite les morts. Je pense que c'était rien de plus qu'une confirmation de ce que j'avais prêché, et que cela avait porté témoignage du royaume de Dieu. Et cela est tout à fait dans la ligne de ce qu'il venait de dire au frère Robertson ici présent, et à un autre frère. Maintenant, nous l'aimons pour cela, et nous sommes reconnaissants de ce que le frère West soit avec nous ce soir. Et certainement, Dieu n'a pas terminé avec notre frère. Sans cela, il serait parti ce matin. Frère West a quelque chose à faire, et je veux que vous sachiez, frère West, que cette église entière et moi-même prierons pour que Dieu vous fasse connaître son plan pour votre vie et celle de votre femme. Et aussitôt que cela sera matérialisé, il vous y mettra. Je suis sûr qu'il le fera, frère West, et nous tous qui sommes chrétiens, nous remercierions Dieu pour le frère West. Aiderai pour vous tous, et je prierai pour que lui et sœur West aient une place dans le Seigneur pour leur service dans la vie. Maintenant, je veux également parler au frère West. Je suis venu de bonne heure pour pouvoir y parler, connaître ses intentions et ce qui est arrivé, et il ne sait pas, vous voyez, il a simplement oublié, il était tombé, il a perdu connaissance, c'est tout. Frère West voulait demander si quelqu'un ici présent allait en Arkansas mardi, ou quand il ira à cette réunion. Maintenant, c'est peut-être une très petite réunion. C'est une fraternité qui se réunit. Je pense que c'est dans une espèce de jeûne ou quelque chose du même genre. Il n'y aura probablement pas beaucoup de monde. Je pense à la réunion parce que franchement, ils ne savent pas encore, même maintenant que j'y serai, vous voyez. Et mes amis des environs ne le seront probablement pas avant un jour ou deux. Même mes amis en Arkansas qui me connaissent, ils seront à la réunion. Mais si quelqu'un y va et a de la place pour prendre un passager, frère West serait très heureux de cela. Il a dit de préciser qu'il ne serait pas une charge et que les gens n'auraient pas besoin de s'occuper de lui pendant son séjour là-bas, car il pourrait s'arranger tout seul. Mais si quelqu'un y allait, ce serait pour lui un signe que Dieu l'aime, ou que ce serait la volonté de Dieu qu'il y aille. Vous savez donc tous que le frère West est là dans le coin, et si quelqu'un voulait, si quelqu'un va en Arkansas et a une place dans sa voiture, il serait heureux d'en profiter. Et alors, dimanche soir prochain, si Dieu le veut, je serai de retour, ou dimanche prochain le matin plutôt, et si frère Neville a l'école du dimanche, quand elle sera finie, je vais enregistrer une autre bande si je peux. Et si je ne me trompe pas, je pense que je parlerai sur votre vie est-elle digne de l'Évangile? Ou votre vie est-elle digne de l'Évangile? C'est ce que je veux dire. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? Et si Dieu le veut, je vais enregistrer une bande sur ce sujet. Et maintenant, ce soir, j'ai annoncé aujourd'hui que j'allais enregistrer la bande. Et le pasteur, je crois qu'il n'a même pas prêché, il m'a simplement appelé ainsi pour parler ici sur cette estrade. Maintenant, alors, je ne sais pas, mais maintenant, si on enregistre la bande, si vous vous sentez fatigué ou quoi que ce soit, si vous désirez sortir, faites-le aussi doucement que possible. Parce que vous voyez, ces microphones sont très très sensibles, ils enregistrent le moindre bruit, et nous essayons d'enregistrer ces bandes pour une évangélisation internationale. Et ce soir, je désire annoncer mon sujet après avoir lu la parole de Dieu dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 24. Et commençons maintenant au verset 32 et lisons l'Écriture. Écoutez une comparaison du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que les feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi vous-même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Christ est tout près, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul n'en sait rien, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. Tels que furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, dans notre lecture de ce soir, nous trouvons qu'il est dit, dans la première partie de ce chapitre, que les disciples l'appelèrent à part sur le mont, la montagne, et lui dirent, « Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand le temps viendra-t-il ? Où aucune pierre ne restera l'une sur l'autre dans le temple. » Alors il continue et il répond. Voyez, au premier verset, comme Jésus s'en allait sur le temps du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez, tout cela en vérité, vous dis-je, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ses disciples, et comme ils s'asseyaient sur le mont, « Oh, pardon !» Or, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, en disant, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du siècle. » Voyez, ils ont posé trois questions, et il a répondu aux trois questions. « Quand viendra-t-il un temps où il ne restera pas une pierre sur l'autre? Quel est le signe de ta venue, et quand viendra la fin du monde ?» Et je crois que beaucoup d'entre nous, mes frères, se trompent, quand ils essayent de tout rapporter à sa venue. Mais il répond aux trois différentes questions qui lui ont été posées. Comment y aurait-il un moment où aucune des pierres ne restera l'une sur l'autre? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ta venue? Et qu'y aura-t-il à la fin du monde? Voyez, trois questions différentes. Et il commence à répondre à une de ces questions au sujet des pierres, dont pas une ne restera l'une sur l'autre. Et puis, quand il en a eu fini avec cette question, il répond au sujet de sa venue, puis il parle de la fin du monde. Maintenant, remarquons ici une des choses dont je veux parler ici ce soir. C'est l'éclatante lumière rouge du signe de sa venue. Et nous allons parler ce soir de l'époque de Noé. Il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Et ceci m'a frappé l'autre jour. J'ai pensé que peut-être j'essayerai de parler là-dessus et en inscrivant plusieurs écritures auquel je voudrais peut-être me rapporter, mais lisons-en un peu. Mais maintenant, notre Seigneur Jésus, à qui on avait posé cette question, leur donna le signe de sa venue. Et puis, immédiatement, il a dit ceci, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et puis, il a dit, « Écoutez la parabole du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres, que les feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi vous-même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps est proche. Et cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. » Quelle génération? La génération qui voit l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Ainsi, quand nous pensons à mon texte, comme l'éclatante lumière rouge de sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare. Quand un homme ou plusieurs sont debout, attendant de prendre le train, et nous n'entendons pas le train, ou nous ne le voyons pas, mais nous savons que c'est l'heure. Peut-être le chef de gare a-t-il dit, oh, il a un peu de retard, il n'est pas exact, nous ne savons pas l'heure de son arrivée, mais il arrivera bientôt. Et nous marchons de long en large, et nous asseyons sur nos valises, et nous sortons pour aller acheter un sac de cacahuètes, et nous parlons à quelqu'un d'autre de l'autre côté de la rue, mais soudain nous voyons que quelque chose arrive. Il y a du bruit sur la voie. En même temps, le bras du signal s'abaisse. La lumière rouge commence à briller. Qu'est-ce que c'est? Le train arrive. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Mais cette lumière rouge qui brille et le bras du signal abaissé montre qu'il arrive. Et alors, si vous devez prendre ce train, vous feriez mieux de jeter ce sac de cacahuètes, d'arrêter de parler, de prendre vos valises et de vous tenir prêt. Ou vous raterez votre train. Parce qu'il ne s'arrête pas longtemps à cette petite gare. Vous le raterez si vous continuez à bavarder avec le voisin de l'autre côté de la rue. Alors, combien plus important est-ce quand nous voyons un signal éclatant annonçant sa venue? Le vieux train de l'Évangile va passer bientôt. Et comme nous étudions ce soir ce grand texte, ce signal éclatant, alors que notre Seigneur était assis sur la montagne et leur dit que ces choses arriveraient, tels que furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, nous voulons revenir un peu en arrière et voir si nous découvrons maintenant quelque chose qui soit comparable à l'époque de Noé. Alors nous pourrons dire si nous sommes à ce jour dont le Seigneur a parlé et voir si nous trouvons quelque ressemblance avec l'époque de Noé. Pour ce faire, je pense que nous devrions revenir au livre de la Genèse, à l'époque de Noé. Et si vous le voulez, prenez avec moi le chapitre 6 de la Genèse. À l'époque de Noé, au déluge, et la condition morale de cette époque-là, la Genèse chapitre 1, tous les 60 jours, mais combien a-t-il de clandestins? Voyez, sa population, les filles des hommes, étaient belles. Maintenant, je fais remarquer une épure, une lumière rouge étincelle, et nous dit que le temps est proche. Ils ont inventé des trucs comme le rouge à lèvres, le maquillage, de sorte qu'une femme qui n'est pas tellement jolie peut se rendre jolie par tous les maquillages du visage, des lèvres, des choses que l'on a inventées pour rendre jolie. Max Factor fabrique jour et nuit, et on dépense plus en maquillage en Amérique en une année pour rendre les femmes jolies qu'on en dépense chez l'épicier. C'est vrai. J'ai oublié combien de billions de dollars sont dépensés chaque année pour le maquillage, pour embellir nos femmes. Maintenant, je n'ai rien contre cela, mais je vous montre simplement que c'est un éclat de lumière rouge pour nous dire que le temps est proche. Car Jésus a dit lui-même, tel que furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, la même chose. Remarquez, quand les gens commencèrent à se multiplier, les filles des hommes étaient belles, les fils de Dieu les regardèrent et les prirent pour épouses, pour femmes. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je le lis dans la Bible, où Jésus nous dit de remonter à la Genèse et de comparer cette époque avec la nôtre. L'accroissement des peuples et la beauté des femmes, maintenant, cela est un grand signe. Maintenant, l'avertissement de Jéhovah, le troisième verset. Le Seigneur dit alors, immédiatement après que ceci arriva, souvenez-vous, le Saint-Esprit écrivit la Bible. Et Jésus fut doté de la plénitude du Saint-Esprit. Et il n'a parlé que par le Saint-Esprit. Et les Écritures sont écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui écrivit le chapitre 6 de la Genèse nous dit au chapitre 24 de Matthieu que pour savoir quand le temps se rapproche, nous rapporter au chapitre 6 de la Genèse. Et de les comparer. la prolifération des hommes sur la terre. Et pourtant le contrôle des naissances et toutes les choses du même genre ne l'arrêtent même pas. L'accroissement continue parce que nous sommes à la fin des temps. Et alors, remarquez immédiatement, un moment vient où l'on dit que les femmes étaient jolies, très jolies. Et nous comparons cela avec notre époque. Et nous pouvons le prouver. Maintenant, j'ai regardé des images il y a longtemps montrant nos ancêtres, traversant les plaines. Et je ne peux pas dire le nom de la femme, mais son nom était connu de San Francisco à Boston, comme étant la femme la plus jolie du pays. Je crois que son nom était Pearl Boy. Il y a très longtemps, elle a été tuée par son amant Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de la femme comme étant la plus belle femme du pays, vous la regarderiez à peine. Elle ressemblerait à une antiquité ici dans la rue. Car la plupart des femmes que vous pouvez rencontrer seraient trois fois plus jolies qu'elle. N'importe quelle femme que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans la rue, vous voyez, c'est un accroissement de beauté pour les femmes. Et alors, je me demande si nos femmes s'en rendent compte. Elles peuvent. C'est la raison pour laquelle je veux que cette bande aille partout. Et que vous ne devez pas mettre, oh oui, nous voulons que vous soyez jolies, mais nous voulons que vous soyez naturelles. Nous ne voulons pas que vous soyez superficielles. Certaines de ces jolies femmes, si vous les trempiez dans une baignoire pendant un moment et que vous les laviez, elles pourraient paraître quelque peu différentes. Habillez-les comme elles devraient être habillées, mais elles ne le font pas. Et vous ne pourrez pas dire qu'elles sont différentes, mais nous allons y arriver tout à l'heure. Mais c'est un éclat, l'éclat de la lumière rouge. Souvenez-vous, quand les gens commencent à se multiplier sur la terre, les femmes à devenir jolies, c'était cette heure-là. C'était à ce moment-là dont le Seigneur a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours en l'homme. Vous voyez le rapport? Vous voyez la main de Dieu? Mon esprit! Les filles de l'homme étaient belles. Et il les prit pour femmes. Et il a dit, alors mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car je compterai ses jours. Maintenant le verset 4. En ce temps-là, et même par la suite, des géants vivaient sur la terre, lorsque les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elle leur donnait des enfants. Ce sont là les héros si fameux des temps anciens. Avez-vous remarqué? On ne dit jamais rien sur le mariage. Remarquez, les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes. Rien sur le mariage. Et si vous prenez le texte original, le mot signifiant dit, je l'ai inscrit quelque part ici, femmes, les prirent pour femmes. Au troisième verset, les prirent comme épouses. Dans le texte hébreu, j'ai contrôlé cet après-midi, on ne dit pas les prier comme épouse, non. Le texte hébreu dit les prier pour femme, non pour épouse. Maintenant, vous pouvez contrôler avec l'emphatique diaglotte, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Ils les prirent comme femme, non comme épouse. Ils les prirent comme elles étaient. C'était l'amour libre, comme aujourd'hui, en d'autres termes. Ils étaient amants à cette époque, exactement comme maintenant. Ils faisaient comme ils voulaient. Ils prenaient la femme qu'ils pouvaient, et quand les fils de Dieu... Maintenant, beaucoup d'entre eux disent ici que c'était des anges déchus et ainsi de suite. Et des hommes et des femmes. C'est pour montrer que ceci est faux, absolument faux. La Bible ne parle nulle part d'anges, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et en outre, il n'est jamais parlé d'une femme comme étant un ange dans la Bible, jamais. Maintenant, si vous voulez vous reporter aux Écritures à ce sujet, vous pouvez le trouver dans Matthieu chapitre 22 verset 20 et les versets suivants. Maintenant, un ange-femme n'existe pas. C'est pour cela qu'une femme prédicateur, un ange est un messager. Un ange est un messager. Et vous voyez, les temps ont changé aujourd'hui comme alors. Maintenant, j'ai quelques points historiques inscrits ici. Et je veux vous en parler dans quelques minutes. Mais remarquez les femmes de cette époque, de l'époque Noé. Elles ont dû faire parler beaucoup d'elles à l'époque. Vous voyez, les fils de Dieu, Seth, les fils de Seth, dire que les filles de Caïn étaient belles. Pourquoi? Ils étaient méchants, elles étaient les filles de Caïn. Et quand les fils de Dieu virent les filles de l'homme, ils virent qu'elles étaient belles, et les prirent pour femmes. Puis les fils de Dieu cessèrent d'être aimés de Dieu, et ils se mirent à courir après les femmes. Et si ce n'est pas le reflet de ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai. L'homme, regardez même les églises aujourd'hui. Regardez tout ce que vous voudrez observer. Il semble que partout les femmes étaient jolies à cette époque. L'histoire dit que les hommes étaient devenus leurs esclaves. Les hommes étaient devenus les esclaves des femmes, tellement elles étaient jolies. Ils leur faisaient littéralement des sanctuaires, ils les adoraient. Réfléchissez, ils adoraient littéralement des femmes, de chair et d'eau à cette époque. C'est historique, comparé avec aujourd'hui. C'est la même chose, mes frères. L'homme adore vraiment les femmes. Voyez dans notre propre pays, Madame Kennedy occupe deux fois plus l'esprit que le président, c'est vrai. Et si vous parlez toujours d'un homme, c'est parce qu'il a une jolie femme, c'est comme cela. Et maintenant on dit que, en parlant des chauffeurs, vous entendez les hommes dire que les femmes sont les meilleurs chauffeurs. C'est faux! Je vais vous dire pourquoi. Billy et moi, nous avons traversé les États-Unis dans des conditions excellentes. Nous avons mis un petit tableau dans la voiture. Un petit tableau avec deux colonnes. Homme, femme. Et chaque fois qu'une femme faisait une faute de conduite, nous la marquions dans sa colonne. Et chaque fois qu'un homme en faisait une, nous le marquions dans sa colonne. Et sur 300, ce que nous appelons des petits ennuis sur la route, il y en a eu. Ça va vous surprendre. Il y a eu 280 femmes responsables contre 19 hommes. Mais vous savez pourquoi ces accidents ne vont pas en justice? La police n'arrête pas une jolie fille, ou bien une sur 1000, mais il prend son numéro de téléphone, mais il ne l'arrête pas. C'est comme cela. Rien d'étonnant que les statistiques n'en parlent pas, voyez? C'est comme au temps de Noé. Il s'incline devant les jolies femmes, c'est vrai. Oh, combien cela devait être terrible à cette époque, d'adorer comme il le faisait, les femmes rayonnant d'une façon aussi attrayante. Et si elles étaient plus habiles dans cet art qu'elles ne le sont maintenant, je suis heureux de ne pas avoir vécu à cette époque. Pensez-y. Comment elles devaient, combien ces femmes devaient agir comme elles le font maintenant. Remarquez, la Bible dit qu'elles buvaient, qu'elles mangeaient. Maintenant, cela est normal, certainement. Le mariage est honorable. Un homme épouse une femme, c'est honorable. C'est une institution de Dieu. Mais quand on arrive à une époque où un homme prend la femme d'un autre, ou prend une jeune femme, ou une femme, quelle qu'elle soit, et brise ses liens de mariage, et fait quelque chose de mal, c'est un péché au regard de Dieu. Et la Bible en parle très durement. Maintenant, remarquez, il est dit que, oui, Dieu institua le mariage en Éden, mais il a certainement condamné l'adultère. Et ces hommes et ces femmes de cette époque transgressent les lois de Dieu, et ils en sont responsables, mais ils le font néanmoins. Maintenant, comparez avec notre époque. Regardez bien. Vous voulez voir le train dans la gare. Réfléchissez profondément à cela maintenant. Comme si l'infaillible Jésus-Christ avait dit ces mots. Voyez et remarquez. La Bible dit ici, ils mangeaient, ils buvaient, évidemment avec leurs jolies femmes. Maintenant, vous comprenez que cela est très bien. Manger, boire, cela est une des lois naturelles de la vie. Nous devons le faire. Mais quand tout cela est sous notre esprit, aujourd'hui les gens deviennent gloutons, ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants et vous entrez dans un endroit où l'on sert des cocktails et les femmes boivent plus que les hommes. Jésus a dit, comme il en était de l'époque de Noé, il mangeait, il buvait, il se mariait. En d'autres termes, il vivait avec des femmes sans être marié avec elles. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a une ville qui s'appelle Reno pour que vous puissiez vous marier puis divorcer et vous remarier dans la même journée. Maintenant, cela est démodé. Les soi-disant mariés et les épouses ont chacun leur clé de l'appartement dans ces grandes villes. Maintenant, je voyage. Je suis au cœur des villes et je sais que c'est vrai. Le mari va de son côté, son épouse va du sien. C'est une agglutination de pourriture jusqu'à ce que cela produise un amas de générations molles, paresseuses, bonnes à rien et se dirigeant vers l'enfer. Il y a quelques années, regardez ce qu'un homme a dans le ventre, regardez ce qu'il vaut par les choses qu'il a faites. La science essaye de faire constamment une nourriture meilleure, du blé hybride, des tomates hybrides, du bœuf hybride. Et ce n'est pas bon du tout. Cela tue les gens et ils ne s'en rendent même pas compte. D'ici quelques années, ce ne sera rien de plus qu'un tas de pâtes. Il y a 50 ans, le football était pratiqué exactement comme aujourd'hui et vous n'entendiez jamais parler de quelqu'un qui était blessé. Mais maintenant, il y a une ou deux douzaines de tués par an. Un ballon frappe un homme. Il n'y a rien en lui pour le maintenir en vie. Il est comme un cobaye. Vous le frappez, il est si mou qu'il est déjà mort. Quand Bob Fitzsimmons a combattu Corbett, je crois qu'ils se sont battus pendant 125 rounds. Et une après-midi, à point nu, Il dormait les mains dans le vinaigre pour se durcir les poings. Et un round ne durait pas deux ou trois petites minutes comme c'est d'aujourd'hui. Il ne portait pas des gants rembourrés, mais personne n'était tué. Et il pensait qu'un round durait jusqu'à ce que l'un des deux tombe à terre. Vous deviez mettre l'adversaire à terre. Et il livrait des combats de 125 rounds. C'était des hommes. Aujourd'hui, ils vont être obligés d'arrêter l'art de la boxe, alors qu'ils ont du rembourrage sur leurs bras, sur leurs poings. Ils ne peuvent pas faire deux ou trois rounds sans que quelqu'un soit tué. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont faits d'un tas de... Oh, je ne sais pas, de mollesse, d'ordures, d'hybrides, de rien, jusqu'à ce que toute la génération meure. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'ils deviendraient plus faibles et plus sages? Quand une autre race de gens viendra, ils vivront avec des capsules, ils prendront des capsules comme repas. Ce n'est qu'un tas de fumeurs de cigarettes, de buveurs de whisky, d'avaleurs de cocktails, un tas de drogués, des écoliers délinquants, rien d'étonnant. La mère, se comportant dans la rue comme elle le fait, entraîne l'enfant à sa suite. Le nombre des jolies femmes augmente, la vie sociale s'écroule. Quelle belle époque que la nôtre. La façon dont ils se comportent, ils n'en sortiront pas, non. Qu'est-ce qu'il faut? C'est exactement ce qu'ils faisaient alors. Ils tournent les commandements de Dieu en dérision. Dieu a dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais ils le font. Et ils ont tout quitté, ils pensent qu'ils vont en être quittes, mais ils ne le seront jamais. Peut-être ne devriez-vous pas venir m'écouter. Cependant, Dieu a dit que ce serait le moment où la lumière rouge brillerait. Jésus l'a dit. Maintenant, ils commettent un péché et ils en rient. Il arrive très souvent que le monde d'aujourd'hui appelle vertu ce que la Bible appelle immoralité. Quand vous prenez une jeune fille et lui enlevez ses vêtements et l'affublez de mini-shorts et de pantalons ou autres, et que vous les sortiez dans la rue et qu'elle pense qu'il est convenable pour une jeune fille de montrer sa chair, alors que la Bible dit que c'est un péché, c'est horrible. Et le monde appelle cela vertu, vous voyez? Il tourne les commandements de Dieu et l'Église ne dit rien. Il est temps que quelqu'un élève la voix au nom des convenances, au nom de Jésus-Christ et arrête ce scandale. Parce qu'un jour ou l'autre, nous devrons en répondre. Le jour du jugement dernier. Maintenant, si quelqu'un trouve cela démodé ou un radotage, remontez quelques années en arrière et comparez avec ce qui se passe maintenant. Et imaginez ce qui arrivera dans le futur. Mais il n'y aura pas de futur, mais la venue du Seigneur. Remarquez, comparez ces femmes qui sont d'avant le déluge avec celles d'aujourd'hui. Voyez ce qu'elles étaient. Observez ce que faisaient les fils de Dieu. Alors, est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il y a quelque temps, j'ai assisté à une réunion et j'ai été presque anéanti quand, oh, tout le monde paraissait prendre plaisir à écouter parler un pasteur debout sur l'estrade. Et j'étais assis dans un coin. Et il y avait une jeune femme qui entra. Elle était vraiment habillée d'une façon scandaleuse. Et elle traversa cette église, comme dit la Bible, d'une manière provocante. Et tous les pasteurs sur l'estrade, tous les assistants tournèrent la tête, regardant et suivant cette fille des yeux. Et je pensais à ce passage de l'Écriture. Les fils de Dieu regardèrent les filles des hommes. Pécheresse, païenne, jolie femme. Oh, cela a détruit beaucoup d'églises. Cela a écarté l'Esprit de Dieu. Remarquez, ils regardèrent les filles des hommes. Maintenant, souvenez-vous, Jésus-Christ, l'infaillible, a dit que ces choses arriveraient de la même manière à notre époque. Et il a aussi dit, quand vous verrez ces choses arriver, alors vous saurez que le temps est proche. Maintenant, peu de gens voudraient parler de cela. Beaucoup de prédicateurs ne pourraient pas le dire. Ils le pourraient s'ils le voulaient, mais s'ils le voulaient, les fidèles les mettraient dehors, c'est l'exacte vérité. Mais il y a une chose, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à la Bible. Je ne m'occupe pas de ce qu'il doit faire, vous devez vous rappeler que la Bible est la vérité, et la vérité lie ou libère. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Les fils de Dieu succombèrent à cause des belles formes, des belles figures des filles de l'homme. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, la même chose. Maintenant, comparé à aujourd'hui, l'augmentation de la population, les femmes deviennent jolies, les fils de Dieu succombent, les mariages, les divorces, la vie en adultère, et ainsi de suite. Comment dites-vous, frère Branham? Un moment, je ne sais pas. Écoutez, frère, avant de dire quelque chose, écoutez ceci. Jésus-Christ a dit que quiconque regarderait une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et quand vous voyez, quand un homme sort de son bureau, sort de l'église, sort de chez lui, regardez les rues, que voyez-vous? Un étalage de tous côtés de chair de femme, vêtue de vêtements collants, jolis. Oh, tentez! Dieu a dit que cela arriverait. Quand cela arrive, alors le temps est proche, comme cela était du temps de Noé. Alors les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils commencèrent à les prendre pour femmes, voyez, c'est cela. Maintenant attention, nous trouvons la même chose aujourd'hui. Nous voyons dans l'histoire qu'elles avaient un tel attrait sexuel que les hommes leur firent des sanctuaires. Celui de Vénus et autres, voyez, ils firent des sanctuaires et s'y prosternèrent. Quand vous dites, oh frère Branham, de telles choses n'arrivent pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer cela à notre époque. Je vous demande pardon, je crois que c'est pire aujourd'hui que ce n'était alors. Que voyons-nous à la télévision? Vous ne pouvez même pas prendre un journal. Tout ce que vous voyez est encombré de femmes, de jolies femmes. Sur chaque bouteille de whisky, dans les magazines, des femmes avec un attrait sexuel, habillées d'une façon indécente. Toute la télévision et partout, il y a des femmes habillées indécemment, de jolies femmes. Nous découvrons que sur les publicités de cigarettes, tout ce que nous pouvons voir, c'est une femme aguichante. Vous ne pouvez même pas voir une publicité pour des bas de soie sans voir des jambes minces dedans. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle un homme pour qui j'ai travaillé, Chris Mermer, là-haut dans le coin. Et beaucoup d'entre vous se souviennent de Chris Mermer, sa femme Lilian, son nom était Lily, je crois, de Hellinger. Et quand elle, un homme vint, c'était une belle fille, et un homme voulait obtenir la permission de son père de mettre son visage, seulement son profil, sur une boîte de bonbons. Et ce vieux luthérien allemand se leva et dit, c'est une insulte pour moi que de mettre l'image du visage de ma fille sur une boîte de bonbons pour être répandue dans tout le pays. Mais aujourd'hui, sur toutes les affiches de la télévision, tout ce que vous voyez, c'est immoral et vulgaire. Une femme démoniaque, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Le train, le vieux train est sur la voie maintenant. La Bible dit, il va bientôt venir. Nous l'entendons, mais nous parlons d'autre chose. Mais souvenez-vous, ceci est un autre éclair, un de ces éclairs qui luit devant nous aujourd'hui. Oh, nous voyons l'état de la nation, nous voyons le malaise politique, nous voyons l'état de l'Église. Nous prêchons sur tout cela. Mais ceci est nouveau. C'est quelque chose que l'on n'aime pas beaucoup entendre. Mais il faut en parler, car une voix doit s'élever. Et souvenez-vous, les paroles que je prononce ce soir me seront rappelées au jour du jugement. Quand j'ai vu cette femme il n'y a pas longtemps dans une vision que le Seigneur m'avait envoyée, quand je l'ai vue mourir, cette... Oh, je ne peux jamais me souvenir du nom de cette femme. Ah oui, Marilyn Monroe. Je ne l'avais jamais vue, je ne vais pas au cinéma. Mais je vis la fille. Elle était attirante. Elle essayait d'atteindre quelque chose. Elle était mourante. Elle avait une crise cardiaque. Et le Seigneur dit, maintenant tu peux dire qu'elle est morte exactement à 4 heures. Elle ne s'est pas suicidée, dit-il, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures, parce que c'est quelques secondes avant 4 heures. Et puis j'ai vu où ils l'ont trouvée, et j'ai dit à Billy, je l'ai dit à la famille, à ceux qui étaient avec moi, et quelques jours après, Marilyn mourut. Maintenant, quand j'étais au Canada l'autre jour, mes enfants parlaient tout le temps d'un certain endroit où une dame qui nous prêtait sa maison avait la télévision, et ils dirent qu'il y avait une pièce qui allait passer, intitulée « La rivière sans retour ». C'est la rivière où je pêche tout le temps. Et John Smith, un de mes amis, a joué cette pièce en tournée. Les enfants dirent, « On a fait un film de cette pièce, papa. Peut-être, Monsieur Smith joue-t-il dedans, aimerais-tu le voir ?»« Bien, dis-je. Quand je reviendrai du Canada, si je reviens à temps, j'irai le voir. Bon, quand la pièce vint, je suis allé la voir. Et quand j'y suis allé, Marilyn Monroe jouait dedans. Maintenant, elle était là, bien qu'elle fût morte depuis plus d'une année. Elle était là, habillé d'une manière aguichante. Sa voix était là, sur la bande magnétique. Elle sera là, sur cette bande magnétique pendant des années. Et si cette bande magnétique contient ses actions, et si elle peut la regarder depuis l'endroit où elle est ce soir, je pense qu'elle est sauvée, mais je ne sais pas, cela concerne Dieu. Mais si elle peut regarder en arrière, elle ne peut pas renier cette bande, elle ne peut pas la renier, parce que nous l'avons. Combien plus Dieu a-t-il chaque mouvement, chaque action sur sa grande bande suprême? Nous ne pouvons y échapper, elle est là. Et souvenez-vous, s'il y avait un microphone ici même, est-ce celui-ci ou que je parle à la radio, au monde, les gens du monde entier entendraient ma voix avant que vous ne puissiez l'entendre. C'est dans l'électronique du monde. Et vous savez, cette voix ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. Les hommes de science prétendent que dans 20 ans, s'ils peuvent continuer à progresser comme ils ont pu le faire jusqu'à maintenant, ils enregistreront la véritable voix de Jésus-Christ quand il était sur Terre. Dans 20 ans d'ici. Parce que c'est comme quand vous jetez un caillou dans un étang. Les petites vagues peuvent finalement disparaître à vos yeux. Mais la science prétend qu'elles retournent à une rive, à travers un océan jusqu'à un autre, et qu'elles reviennent. Elles ne meurent jamais. Et les mots que vous prononcez ne meurent pas non plus. Ils vous rejoindront le jour du jugement, et ils vous condamneront ou vous sauveront. Et vous ne pourrez jamais les changer. Et nous sommes très conscients des images de gens traversent cette salle, maintenant même. Si vous ne le croyez pas, ouvrez la télévision. Il y a la voix des gens. Pourtant, vos sens ne les perçoivent pas. Mais maintenant, ils ont une station émettrice, un pôle magnétique, ou un tube, ou un cristal, qui capte ces voix et les reproduisent. Et maintenant, la véritable essence de la Bible est ceci. La parole de Jésus-Christ, comme il l'a dit. Elle est littéralement vivante, comme n'importe quelle autre parole l'est dans le monde ce soir. Maintenant, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ et devient un poste récepteur de cette station émettrice, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il fait les mêmes choses qu'il a fait, parce que sa parole ne peut pas mourir. Elle vit pour toujours. Ils n'ont pas besoin d'inventer un appareil et d'attendre 20 ans. Nous la recevons en ce moment même. C'est la vérité. Vivre dans cette grande époque où nous vivons, proche de la venue du Fils de l'homme. Et les lumières de sa venue éclatant de toutes parts. Nous la voyons dans la politique, nous le voyons dans l'Église, nous le voyons dans le temps, nous le voyons partout où nous regardons. Nous voyons que le soleil a l'air différent, le monde est à court. On me dit que maintenant, au pôle Nord là-haut, la mer est devenue, je ne sais plus combien de fois plus profonde qu'auparavant, et qu'elle devient profonde là où elle était peu profonde. On pouvait traverser le détroit de Bering à pied. Maintenant, il a une profondeur de plusieurs mètres. Pourquoi? La terre entre au milieu. Elle devient peu profonde là où elle était profonde, et profonde là où elle l'était peu. Le monde est complètement à court. Il trébuche, il chancelle. Toute la nature est détraquée. Et tout ce que nous pouvons voir maintenant ce soir, nous découvrons que la nature elle-même, ce qu'elle produit dans la race humaine, le signe de sa venue. Car les fils de Dieu et les filles des hommes deviennent beaux. Les hommes courent après les femmes. Quelle époque nous vivons! Oh mon Dieu! Et comme elle ressemble à celle de Noé! Puis nous voyons dans l'histoire cette chose abominable des hommes adorant les femmes. Et nous découvrons aujourd'hui que c'est l'univers de la femme. J'étais en Suisse il n'y a pas longtemps et je parlais à « Oh, maintenant, je n'ai rien contre les chrétiennes. » Non, monsieur, ce sont des bijoux. Je parle du monde. Il y avait une dame qui voyageait avec moi, avec frère Guggenbull, et une de ses amies, c'est un homme d'environ mon âge. Il n'a jamais été marié. Un vieux célibataire, et il voyageait avec une jeune dame. Et alors, une des jeunes filles de là-bas me dit, « Frère Branham, parlez-nous de l'Amérique. Nous pensons que les femmes là-bas, c'est certainement le royaume de la femme là-bas. » Je dis, c'est vrai. Elle a dit, j'ai toujours voulu y aller. Alors j'ai commencé à lui expliquer. Elle a dit, quoi? J'ai dit, oui. Cela l'a fait changer d'opinion immédiatement. Eh bien, dit-elle, comment pouvez-vous mener une vie chrétienne dans un tel endroit? Alors, pensez-y, quand je suis allé à Rome et que j'étais à San Angelo dans les catacombes, ce fut un affreux spectacle quand je sortis de mon hôtel. J'allais vers cet endroit appelé trois pièces dans une fontaine. Les femmes dans la rue, mais quelle immoralité! Les femmes viennent vers vous et vous demandent de leur donner des rendez-vous. Les femmes de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes espèces. J'ai oublié le nombre de celles qui sont allées vers Billy et vers moi et vers frère Baker avant que nous arrivions à la fontaine. Et le guide de la TWA qui nous conduisait, je lui dis, ces femmes sont-elles obligées de vivre de la sorte? Et elle dit, non, mais quand les soldats ici sont ici, on y est habitué. Pourtant, elles ont un bon métier, et pourtant, elles continuent. Mais même dans un endroit comme celui-là, quand j'arrivais à San Angelo, il y avait une grande pancarte, en dehors du Vatican, sur lequel on pouvait lire, « Avis à mesdames les Américaines, s'il vous plaît, mettez des vêtements avant d'entrer et honorez les morts. » J'ai vu une Américaine à Paris, qui est actuellement un de nos modèles, parce que nos modes viennent de Paris, mais cette fille était habillée d'une manière tellement indécente, avec son père et sa mère. Et il y avait des soldats qui travaillaient là. Ils lâchèrent leurs piques, leurs pelles, ils coururent pouvoir passer cette fille américaine. Nous décidons de la mode. Paris donnait le ton, mais maintenant elles viennent ici pour rechercher la pourriture vulgaire et basse. Et ce pays où un réveil vient de passer par le baptême du Saint-Esprit, avec le merveilleux Seigneur Jésus donnant des signes et des miracles de pardon et parlant de ce qui se passait du temps de Noé, la lumière éclatant de tous côtés, un Dieu qui peut ressusciter les morts, un Dieu qui peut guérir les malades, un Dieu qui peut annoncer les choses avant qu'elles n'arrivent et les annonce d'une façon parfaitement exacte. Et vous pouvez prêcher pour nos femmes en Amérique, elles deviennent plus mauvaises toutes les années. À Bombay, ou je veux dire plutôt à Durban en Afrique du Sud, il y avait quelques 200 000 indigènes réunis autour de la Réunion quand Dieu a accompli un grand miracle. J'ai vu 30 000 indigènes, des femmes, debout, vêtues seulement d'un vêtement de perles, de 4 pouces pendant de côté, et puis les hommes sans aucun vêtement, nus, une couverture sur laquelle ils dormaient, une peau de chèvre qu'on leur donne quand ils arrivent à un certain âge. Alors ils vivent dedans, ils dorment dedans, ils s'enveloppent dedans, et ils meurent, et ils sont ensevelis dedans, dans un corral quelque part. Et j'ai vu ces femmes si primitives, que l'une d'entre elles a accouché à 4 ou 5 mètres de moi, elle n'est jamais allée à l'hôpital, une femme l'a aidée pendant 1 minute, et environ 5 minutes après, tout était terminé. Elle ramassa le bébé, elle le tint près de sa poitrine pour qu'il tète, cela est primitif. Mais, quand ils ont vu la puissance de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, descendre sur un petit garçon qui était très éprouvé et dont l'esprit était dérangé, et il s'est levé ayant toute sa connaissance et louant Dieu, 30 000 indigènes connurent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous souvenez? C'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte. 30 000! Et personne, je regardais ces femmes de mes propres yeux, quand elles tombèrent sur le sol, brisant leurs idoles, consacrant leur vie à Jésus-Christ. Elles ne savaient pas. Beaucoup d'entre elles n'avaient probablement jamais entendu prononcer son nom. Mais quand elles tombèrent sur leurs genoux, je leur demandais si elles étaient vraiment sincères, si elles croyaient vraiment de tout leur cœur. Elles brisèrent leurs idoles, et quand elles tombèrent sur leurs genoux et donnèrent leur vie à Christ, pendant que je priais pour elles et qu'elles se relevèrent, ces femmes qui se tenaient debout, les bras pendants, ne sachant pas qu'elles étaient nues, aussitôt que la vie de Christ eut touché leur vie, j'ai vu ces femmes croiser les bras et fuir les hommes. Et si la grâce de Jésus-Christ fait cela sur une indigène, que devrait-elle faire sur une nation qui entend l'Évangile depuis 100 ans? Oui, là nous le voyons. J'ai vu cela. Quelqu'un ne me l'a pas raconté. C'est moi qui l'ai vu. Il est étrange alors que nous nous appelions chrétiens et que chaque année nous nous dévêtions un peu plus. Mais les églises paraissent s'en désintéresser complètement. Les programmes de télévision, on rabaisse les femmes à un tas de chair et de sang. Ils ne sont pas des dieux, elles ne sont pas des déesses. Mais elles mettent l'Amérique en état de remplir l'Écriture. Le nombre de l'Amérique est 13, le sanctuaire de l'Amérique est une femme. Toujours, elle est sur notre argent, elle est partout. Et maintenant, certainement, dans une époque pas très éloignée, elle va où nous allons avoir également une déesse américaine. Vous pouvez voir l'Écriture sur le mur. Oh, qu'allons-nous faire? Vous ne pouvez même pas sortir dans la rue et trouver, regardez dans les rues, commencez à descendre en ville et voyez l'étalage de femmes, la façon dont elles se vêtissent de vêtements qu'une bonne et honnête femme devrait avoir honte de porter dans son salon. Elles déambulent dans les rues avec des vêtements si collants et si courts, et sur les plages avec ces petites bikinis ou quel que soit le nom qu'on leur donne, des choses de ce genre. Elles ne savent pas que l'esprit du diable est en elles. Et beaucoup d'entre elles appartiennent à des chorales. Jésus a dit que cela arriverait. Les femmes sont chères et sang, elles ne sont pas des déesses. À mon avis, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais c'est du striptease en gros. Vous pouvez à peine blâmer un homme qui n'est pas un chrétien, mais même un chrétien succomberait. Il succomberait à la tentation dans un tel endroit, bien qu'il ne veuille pas faire mal, mais il ne peut plus se contenir. Il est étonnant qu'il n'arrive pas plus de mal, parce que tant de femmes y incitent. Mais comment pouvons-nous blâmer les hommes? Blâmons qui le mérite? Une femme m'a dit, « Allons, frère Branham, je suis tout aussi vertueuse que n'importe qui. » Sans aucun doute. « Mais ma sœur, savez-vous qu'au jour du jugement, vous allez répondre d'avoir commis l'adultère, quand vous vous exhibez de la sorte et qu'un homme vous regarde? » Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme avec convoitise, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Elle devra en répondre. Peut-être n'avez-vous pas commis l'acte, mais si vous avez permis à Satan de mettre cet esprit en vous, quand la nature elle-même devrait vous enseigner que cela est mal, sans l'esprit de Dieu, la nature devrait le faire, vous enseigner que c'est mal, je prédis que bientôt elles sortiront avec quelque chose pas plus grand qu'une feuille de figuier. J'ai prédit cela il y a 30 ans, vous voyez? C'est une insulte à la Bible, vous voyez? Elles le feront, c'est du striptease public. Maintenant, le diable fait la même chose au fils de Dieu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Regardez nos entreprises. La plupart de nos entreprises sont contrôlées par des femmes. Beaucoup d'entre elles, c'est vrai. Regardez nos églises, regardez notre pays. Comment les fils de Dieu s'inclinent très bas devant ces sanctuaires. Ces femmes, comme elles sont, pour moi, ne sont que des prostituées. C'est une chose affreuse à dire, mais c'est la vérité toute nue. Je sais que les gens qui entendront les choses dites sur cette bande en discuteront beaucoup. Mais qui puis-je? Si vous présentez de cette manière et que les hommes vous regardent, Jésus dira que vous avez commis l'adultère avec eux. Et quand ils auront à répondre du péché d'adultère qu'ils ont commis, à qui est-ce la faute? C'est la femme qui s'est dévêtue de la sorte. Elle s'est exhibée ou présentée devant le pécheur. C'est vrai. De quoi est-ce le signe? La fin des temps. La lumière rouge. La maternité s'est écroulée. Les nations s'écroulent. Maintenant, si vous voulez voir où Jésus a dit cela, lisez Matthieu chapitre 5, verset 28. C'est là. La vie de la femme a été la cause et une forme de... La soumission à ce pouvoir sexuel a été la ruine. Si vous voulez en avoir la preuve, la voici. Quelques nations dont j'ai retrouvé la cause de la ruine, l'une fut l'Égypte, l'autre la Syrie, l'autre Rome, et d'autres encore, elles sont tombées à cause du pouvoir de la femme. Remarquez, Dieu ne peut rien donner de mieux à l'homme après le salut qu'une bonne épouse. Aucun homme ne peut consoler, aucune personne ne peut consoler une autre personne. Quand elle est fatiguée, on ne se confie à personne comme on le fait à son épouse. Et quelle chose merveilleuse, mes frères, quand vous avez une bonne petite épouse qui est droite, vertueuse, auprès de qui vous pouvez venir quand vous êtes lassé et fatigué, vous asseoir et qu'elle vous parle. Elle peut faire plus pour vous que n'importe qui, c'est vrai. C'est un bijou, c'est une reine. Mais rappelez-vous que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Le dernier être que Dieu ait jamais créé était un homme. Une femme est un sous-produit de l'homme. Elle a été faite pour un homme et l'homme n'a pas été fait pour la femme. Et l'homme est tombé en adoration de la femme. C'est ce qui a été à l'origine de tout. Alors que le fils de Dieu, Adam, ne pouvait pas être tenté de faire le mal, Satan vint sous l'apparence d'un serpent qui était comme un homme. Et ce fut le commencement. Et Ève désobéit à la parole de Dieu. Et ce fut la cause de toutes les crises cardiaques, de tous les cimetières, tous les péchés qui ont été commis depuis ont commencé là, et cela recommence. La femme a provoqué la première chute, la femme amène la fin des temps. Elle a commencé, elle finit. Rien d'étonnant à ce que la Bible ait dit, ceux qui s'échappent de Sion seront glorieux aux yeux du Seigneur. Quand dans le chapitre 5, Ésaïe parle de la naissance des femmes dans les derniers jours, le nombre de vêtements qu'elles devraient avoir ou comment elles devraient se coiffer et tout l'avenant, la Bible dit cela, Ésaïe chapitre 5, comment elles marcheraient avec des chaussures à hauts talons en faisant claquer leurs talons en marchant, et les choses qu'elles feraient, du nombre de fois qu'elles changeraient de vêtements et toutes choses de ce genre. Et il dit que tout cela leur serait enlevé et qu'elles seraient assises, puantes d'indécence. Et il dit même que sept femmes se saisiront d'un homme et diront, nous ferons notre travail nous-mêmes, donne-nous ton nom pour nous laver de notre indignité. Mais il dit, combien glorieux sera ce petit nombre qui échappera à toutes ces choses. Alors ce sera la sainteté dans le Seigneur. Quand les femmes vraiment nées à une vie nouvelle connaîtront leur place, bien que l'on se soit moqué d'elles, qu'on les ait appelées bêtes, démodées de tous les noms, mais elles ont agi comme une femme, comme une dame. Elles se sont comportées comme des dames. Elles se sont habillées comme des dames. Elles ont parlé comme des dames. Vivaient comme une dame. Oui, amen. Amen signifie ainsi soit-il. N'ayez pas peur. Cela ne fait pas mal. Très bien. Jésus a dit ce qui arriverait. Ce grand étalage. De même aussi du temps de Lot. Si vous voulez noter cette écriture, c'est Luc chapitre 17, verset 28. Il a dit, on buvait, on mangeait, on achetait, on vendait. D'ordinaire, ce sont des choses légitimes. Mais attention, ce qui les intéressait, ils y mettaient toutes leurs âmes. Et du temps de Lot, les femmes étaient si dépravées qu'elles n'étaient pas employées comme des femmes devraient être employées. Mais elles étaient perverties à un tel point, cela devint si commun, les femmes devinrent si communes, que les hommes vivaient avec les hommes. La perversion naturelle des sexes. Et elle est venue. Elle est venue de ce que les femmes étaient si mauvaises. Il y a quelques jours, j'étais à Tucson. Je suis allé acheter un pain et il y avait un garçon assis dehors et deux petits garçons dans la voiture. Un autre entra pour acheter un paquet de cigarettes. Et le vieux monsieur aux cheveux gris le regardait et lui dit, « Pour qui sont ces cigarettes ? Pour votre mère ?» Il répondit, « Non, c'est pour ce garçon. » Il dit, « Est-il assez âgé pour les avoir ?» Il répondit, « Oui, monsieur. » Il s'est recourbé comme cela, et je regardais debout avec un pain et un quart de lait. Et il est parti en disant, « Au revoir. » Et il les lui a donné. Il me regarda et il dit, « Je ne crois pas qu'il ait l'âge. » Je répondis, « Il ne peut pas devenir assez âgé pour le faire. Il est trop tard. » Il ne sera jamais assez vieux, à aucun âge. Il dit, je suis d'accord avec vous. Avez-vous eu du mal à essayer de ne plus fumer? Je lui répondis, je n'ai jamais fumé. Mes parents fumaient, mais le Seigneur notre Dieu m'en a préservé. Il se retourna, il me regarda drôlement, puis il dit, bon, c'est je pense que c'est une honte de voir comment aujourd'hui nous avions coutume de mettre les femmes sur un piédestal. Nous les respections, nous nous découvrions devant elles, nous marchions dans la rue. Et si les hommes entendaient faire une remarque sur une femme, ils le giflaient, voyez. Il ajouta, les femmes étaient honorées, monsieur. Les femmes ont bien cherché ce qu'il leur arrive. Maintenant, les hommes ne se lèvent plus. Ils avaient l'habitude de se lever dans les voitures publiques. Une dame arrive, tous les hommes se lèvent, enlèvent leur chapeau et lui permettent de s'asseoir. Maintenant, c'est la foule, la bousculade. Elle l'a bien cherché. Et c'est la vérité. Cette emprise démoniaque d'Hollywood est sur elle. Étalée dans les télévisions, les magazines, jusqu'à ce que ce soit devenu un grand pot d'ordure. C'est vrai. Je sais que ce n'est pas bon à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la parole du Seigneur. Et aussi un signe d'avertissement. Que le Christ viendra dans cette génération. Il a dit, ceux qui verront ces choses s'accomplir ne mourront pas avant que toutes choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est un avertissement, l'éclat de la lumière rouge, le baisser du rideau. Nous sommes à la fin des temps. Nous voyons les signes du Seigneur Jésus, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons. Nous voyons les gens purifiés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous voyons des vies transformées. Nous voyons de grands signes. Nous voyons des signes mystiques dans le ciel, comme des soucoupes volantes. Le Pentagone, beaucoup de gens le mettent sur la télévision, ils écrivent à son sujet, ils ne savent pas qu'en penser. Toutes sortes de signes mystérieux. Le Seigneur Jésus, descendant sous la forme d'une colonne de feu. On prend sa photographie vivant parmi nous, prouvant qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voyons arriver toutes ces choses. Nous voyons la froideur de l'Église. Nous voyons les sectes religieuses se multiplier. Quand vous voyez le figuier et tous les autres arbres couverts de bourgeons, les Juifs revenir, le figuier, les Juifs retournant dans leur propre pays, nous voyons les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, toutes les églises se couvrir de feuilles dans un réveil. Alors, il y a quelque part un passage qui dit « Soyez prêts ». C'est le moment. Quand nous voyons tout cela arriver, c'est que Dieu a décidé d'appeler ses élus. Il y a aussi beaucoup d'autres signes. Il a dit « Quand vous verrez les femmes devenir extrêmement jolies, quand vous verrez les fils de Dieu les prendre pour femmes, et les prendre pour femmes et faire ceci, cela ou autre, sachez que le temps est venu. » Et voilà maintenant, j'ai écrit autre chose. Souvenez-vous des deux filles de Lot. Oui, vous vous en souvenez, dans la ville de Sodome. Jésus dit ici dans l'évangile de Luc chapitre 17, comme il en était du temps de Sodome. Souvenez-vous, les hommes usaient des femmes d'une telle manière que l'acte naturel de la vie n'était plus désiré. Et oh, c'est terrible à dire sur cette plateforme, mais ceci est vrai. S'il y a jamais une vérité, c'est bien celle-ci. Et notre époque est tellement mauvaise que cela est en augmentation des dizaines et des dizaines de milliers de fois partout. Perversité, sodomite, comme c'était à cette époque. Parce que le but de la nature humaine est de perpétuer. Ce but a été méconnu et s'est affaibli d'une telle manière qu'il s'affaiblit très rapidement. Je sais que vu la manière qu'il augmente maintenant, il sera presque complètement oublié dans 10 ou 15 ans. De grands commentaires, j'ai quelque chose de Edgar Hoover sur ce sujet. Mais je ne sais pas, j'avais cru que je l'avais là, je ne l'ai pas, ce qu'il en disait. Mais maintenant nous découvrons ces choses. Oh mon Dieu, Jude dans son livre, verset 7 dit, lisons-le, je veux le lire, Jude verset 7. C'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Je l'ai inscrit ici. Jude, verset 7. L'homme et la femme se liant par les liens du mariage, les rompant, allant vers d'autres êtres. Écoutez aussi. Sodome et Gomorre et les villes voisines qui avaient pratiqué les mêmes impuretés qu'eux et s'étaient livrées aux vices contre nature, gisent là en exemple, soumises au châtiment du feu de Dieu. Du feu éternel, c'est-à-dire pour être consumé complètement, être exterminé. Il y a quelque temps, à Los Angeles, j'attendais où j'étais en dehors du camp, je remontais la route, une petite dame, une jolie petite femme, très jolie, venait en sens inverse. Et je pensais, elle doit aller à un spectacle. Elle portait une mini-jupe d'environ 12 à 16 centimètres, une petite frange de 6 à 8 centimètres, et comme corsage, un petit morceau d'étoffe qui aurait pu tenir dans votre poing. Un cow-boy, le chapeau sur la tête, portant une paire de bottes avec des glands qui étaient dessus. Elle était, oh, elle était vraiment très jolie. N'importe quel jeune homme aurait freiné à mort et aurait fait n'importe quoi pour l'arrêter, prêt à se détourner de sa route pour elle. Et je me décidais de retourner au camp. Et je retournais. Et je commençais à tourner pour rentrer. Je pensais m'arrêter et lui dire, « Jeune dame, je veux vous parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que vous soyez indubitablement une jolie femme, bien que vous ayez une belle silhouette, vous voulez probablement entendre les freins crisser. Comprenez-vous que cette mentalité qui vous fait agir de la sorte vous conduira à un enfer démoniaque où vous souffrirez jusqu'à la consommation des siècles? Comprenez-vous que ce joli petit corps bien moulé, ces jolies joues et ces cheveux et ces jolies lèvres rouges seront peut-être dans 6 mois rongés par les vers, et que cette âme qui habite aujourd'hui ce corps souffrira un tourment démoniaque? » Puis quelque chose m'arrêta, comme si Dieu me disait, « Si tu fais cela, ils vont te jeter en prison. » Voyez, c'est ainsi. Alors je vis Billy sortir, et lui fit signe que c'était l'heure de les entendre chanter, « Crois seulement. » Oh mon Dieu! Comment les gens peuvent-ils se laisser prendre à de telles choses? c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Et il y a aussi que les pasteurs des différentes dénominations qui sont au courant de toutes ces choses savent qu'il leur est défendu d'en parler, parce que cela éloignerait les fidèles de leur congrégation. Et leur Église cherche à augmenter le nombre des fidèles. Mais Dieu cherche des saints, nés de nouveau, dans le Dieu vivant, qui brillent comme des étoiles. Que Dieu nous aide à être francs et à dire la vérité, que Jésus-Christ a dite. Mais cela est le signe de l'époque à laquelle nous vivons. Ce sont les signes que Jésus a prédits. Nous les avons sous les yeux. Regardez maintenant, comme dans le chapitre ou le verset 7 de Jude. Sodome et Gomorre. Oh mon Dieu, quelle chose affreuse. Non marié à des femmes, mais allant vers des chairs étrangères. Un homme qui est marié à sa femme, ils ne sont plus un. Pardon, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et un homme qui court après une autre femme se sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui va avec un autre homme est morte pour son mari. Elle renie sa propre chair. Elle est coupée de lui, c'est vrai. Au jour du jugement, elle devra en répondre. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre un tel message. Les gens ne veulent pas entendre cela. Ils veulent entendre des choses agréables. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit le jour où j'ai posé la première pierre ici. Il m'a dit, prêche la parole. Sois pressant à tout propos et hors de propos, car le temps viendra où ils ne pourront plus supporter d'entendre parler d'une doctrine saine. Mais pour être en harmonie avec leurs appétits, ils réuniront autour d'eux des quantités de faux docteurs. Leurs oreilles les démangeront et ils se détourneront de la vérité pour croire à des fables. Il a ajouté, quand la vision t'abandonnera, lis le chapitre de 2 Timothée, verset 4. Il dit, n'oublie pas, Timothée, chapitre 2, verset 4. Et quand la vision me laissa alors que j'étais debout, dans la 7e rue, un garçon de 19 ans, la voix de Dieu me parla et me dit, Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est exactement ce qui est arrivé. Le temps viendra où ils ne supporteront plus d'entendre une doctrine saine. Les gens veulent quelque chose. Les pentecôtistes veulent quelque chose. Qu'on leur tapote dans le dos et qu'on les laisse vivre à leur guise. Qu'ils peuvent jouer 40 mesures en une seconde sur le piano, sauter en l'air, danser, et les femmes et les hommes faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de personnes sincères chez les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, c'est très vrai. Mais ce système les a tellement omnibulés qu'ils s'imaginent du moment que leur nom est sur les registres qu'ils iront droit au ciel. Votre nom sur un registre ici sur la terre n'aura pas plus de valeur que cela. Très bon homme, claque les doigts, nom de l'éditeur. N'aura pas plus de valeur que cela pour Dieu. Votre nom doit être écrit sur le livre de vie de l'agneau par le sang de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés, c'est vrai. Mais ils veulent autre chose. Ils veulent ce genre de pasteur. Ils ne veulent rien d'autre. Et quand Dieu, dans ses derniers jours, a secoué, oh, chaque don divin qui est mentionné dans la Bible, chaque don que Jésus-Christ a promis, chaque don, chaque signe de la fin des temps, tout ce qui était promis dans cette Bible, autant que je puisse le voir, a déjà été manifesté dans ce pays. Et ils se ruent vers l'enfer aussi vite qu'ils le peuvent. Dites-leur quelque chose. Ils continueront à courir. Laissez-moi lire encore quelques écritures avant de terminer. Très bien. Oh, la Bible dit qu'ils se dirigent vers l'anéantissement éternel. Ce pays est dans la pourriture. Cette même pourriture sociale, ce pays y est ce soir. Vous le savez, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un bruit que l'on fait courir, c'est la vérité. Chapitre 6, verset 12 de la Genèse. Toute créature suivait sur terre la voie de la corruption. L'homme suivait sa route d'après son idée, ignorant les lois de Dieu. C'est la façon dont l'homme agit aujourd'hui. L'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas l'entendre, ils veulent vivre à leur guise. Jézabel a refusé d'écouter la parole du Seigneur. Elle n'a pas voulu appeler ce prédicateur à l'allure bizarre, Élie, son pasteur. Et pourtant, il était son pasteur, c'est vrai. Dieu l'a envoyé et il a délivré son message. Quelle ignorance! Il ne voulait pas savoir d'où il venait ni où il allait. Il est entré en scène avec la parole du Seigneur. Il a proclamé son message. Et il a prêché, il a condamné tout ce qui était le péché. Et cette moderne Jézabel avait ensorcelé les gens sous le charme de son pouvoir. jusqu'à ce que toute la nation soit corrompue. Élie restait seul là-haut sur la montagne. Mais Dieu dit, Élie ne pense pas à cela. J'en ai encore 7000 en bas qui ont le cœur pur. Ce fut son second appel. Et au troisième, il retourna vers eux, mais souvenez-vous, Dieu était miséricordieux. Et le message d'Élie condamna cette génération incrédule. Le message condamna cette génération et appela le jugement sur ceux qui refusaient de l'entendre et la délivrance pour ceux qui y croyaient. Et tel ce fut du temps de Noé, tel ce sera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Genèse 6. Ignorant les lois de Dieu. Ils disent, la loi de Dieu, la parole de Dieu, lit-on aujourd'hui dans la Bible. Mais maintenant, écoutez, je ne dis cela à personne en particulier. Je suis seulement ici en tant que votre frère. Je suis responsable pour vous dire toute la vérité. Comme a dit le grand saint Paul avant de partir, je n'ai pas craint de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Maintenant, la Bible dit aujourd'hui que les femmes ne devraient pas se couper les cheveux. Je ne m'occupe pas du nombre de prédicateurs qui disent que c'est très bien. C'est mal. Je ne m'occupe pas du nombre d'églises qui l'acceptent. La Bible dit toujours que c'est mal. C'est une honte pour une femme de se couper les cheveux. Mais néanmoins, elles continuent à le faire. Si nous allons plus loin, que font-elles dans leur fort intérieur en se rendant jolies? Elles pensent qu'elles sont jolies. Mais la parole de Dieu les avertit de ne pas faire ces choses. Elles ne doivent pas mettre un vêtement comme un pantalon ou quoi que ce soit de masculin. Mais elles continuent à le faire. Essayez de l'arrêter. Elle dit, alors de quoi vous mêlez-vous, frère Branham? Que cherchez-vous? Oh, comme les gens vous aimeraient mieux si vous ne prêchiez pas sur ces choses. Cela m'est égal. Je suis sensible à ce que les gens pensent maintenant, comprenez-moi bien. Mais je suis intéressé par ce que Dieu pense, c'est-à-dire sa parole. Oui, vous lui dites que c'est mal de le faire, mais malgré tout, elle continue de le faire. Vous voyez comment toutes les femmes chrétiennes font ces choses? Et l'Église ne semble pas s'en émouvoir en aucune manière. Pourquoi est-ce ainsi? Les fils de Dieu sont tombés à cause de la convoitise pour la chair et le sang des femmes. Ils ont renié le vrai Dieu et le vrai sang qui les a rachetés pour les éloigner de ces choses infâmes. Amen! Cela est la vérité, aussi bien que Dieu est la vérité. Essayez de l'arrêter. Vous pensez que la prédication de Noé a empêché quelque chose? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une voix, la voix. Et quand nous serons tous appelés au jugement, le message que je vous délivre ce soir sera exactement là, mot pour mot. Et alors, que ferez-vous? C'est une lumière rouge, éclatante. Il y eut une époque, l'entêtement régnait chez les femmes. Nous sommes ici pour régler cela, parce que cela concerne les femmes. Et vous vous demandez pourquoi je crie toujours après cela. Mais maintenant, je vais vous le dire. J'ai beaucoup d'écritures ici avant de terminer, et je vais vous montrer pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'ai de rester fidèle à cette parole. Et tout serviteur de Dieu devrait rester fidèle à la parole. Vous devez y rester, parce qu'il y aura une voix quelque part, criant contre elle. Je ne m'intéresse pas à ce que les autres font. Nous ne sommes pas responsables des autres. Nous sommes responsables comme individus. Vous n'êtes pas responsable comme méthodiste. Vous n'êtes pas responsable en tant que baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes responsable devant Dieu de votre propre vie. Et nous voyons ces signes. Et pourtant, nous continuons à le faire. Dites-lui que c'est mal. Écoutez ce qu'elle dit. Entêtez. C'est exactement ce qu'a fait. Elle savait très bien qu'elle ne devait pas le faire. Vraiment, elle connaissait la parole de Dieu. Il avait dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Alors, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait en faire à sa guise. Pourquoi les femmes coupent-elles leurs cheveux? Pourquoi les femmes portent-elles ces vêtements? La Bible dit que c'est exactement ce qu'elles sont supposées faire. Les choses qu'elles font sont toutes défendues, c'est exact. Mais pourquoi les font-elles? Elles veulent agir à leur gré. Oui, monsieur. Elles ne veulent en faire qu'à leur tête. Et l'Église ne dit rien là-dessus. Et l'Église est supposée être l'épouse de Jésus-Christ. Elle ne dit rien sur ses agissements. Parlez-en à l'une d'entre elles. Vous savez ce qu'elle vous répondra? Tout simplement. Mais aucune Bible antique ne m'empêchera de m'amuser. C'est exactement cela. Vous leur dites que c'est écrit dans la Bible. Oh, il est possible que ce ne soit pas exactement la lettre, mais c'est l'esprit. Avez-vous jamais entendu le vieux dicton « Les actes parlent plus fort que les paroles » ? Bien. Alors, agissez ! Les actes parlent plus fort que les paroles. Ce que vous dites n'a aucune importance. Votre vie parle tellement fort qu'on ne peut plus entendre votre témoignage. Comme je le disais ce matin, sautez simplement aussi haut que vous vivez. Voyez ? Ah ! Vos actes sont plus éloquents que vos paroles. Et vous pourriez tout aussi bien sortir et le dire parce que votre propre parole parle. Vos paroles, ce qui importe peu, parce que vos actes disent ce que vous êtes. Si vous parlez en contradiction de ce que vous êtes, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, vous hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses alors que c'est du cœur que les paroles viennent, voyez? Il disait quelque chose qu'il ne pensait pas, et les femmes aussi. Elles vont dire, oh mon Dieu, je veux avoir beaucoup de plaisir. Qu'est-il arrivé? Hors du mariage. Et voici un autre endroit dans la Bible. Hors du mariage, les engagements sont tenus. Un gardien du foyer chaste, faisant le bien, elle vous rit au nez. Elle va dans un institut de beauté. Oh, c'est quelque chose de honteux. Mon mari, oh, je ne crois pas cela. Et si la police aujourd'hui, quelle honte. Enrôler des femmes dans la police, si ce n'est pas un indice de dérèglement dans n'importe quelle ville. Alors que tant d'hommes sont au chômage, ils ont engagé des femmes dans la police. Alors que la Bible dit qu'elle doit rester chez elle, être une pure gardienne du foyer. Mais elle tient les comptes de tous les patrons. Vous devriez les voir. Je ne parle pas de la femme vertueuse maintenant. Je ne m'adresse pas à vous, femmes, qui êtes vraiment des femmes de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est sur la bande quelque part, mais je parle de celle-ci. Là où vous en trouvez une comme cela, vous en trouvez 1500 de l'autre sorte. Elles ne veulent rien entendre. Gardez votre Bible, prêchez-la pour vous-même. Nous ne voulons pas l'entendre. Obéissez. Oh, elle pourrait dire ceci. Vous racontez vos histoires de Bible à quelqu'un d'autre. Réservez votre Dieu pour quelqu'un d'autre. Et laissez-moi tranquille. Pourquoi m'importunez-vous? Je ne vous ai jamais demandé de me raconter tout cela. Je le sais. Mais Dieu me l'a demandé. Voyez? C'est tout. Ainsi, elles continuent à tout corrompre exactement comme elles ont fait dans le passé. Oh Seigneur, exactement comme elles ont fait à cette époque, elles agissent maintenant. Cela n'a pas changé. Cela ne change pas. Cela ne changera jamais. Finalement, la délinquance juvénile a eu des enfants. La prison a des hommes et des femmes. Et l'enfer prend le tout. C'est la stricte vérité. Le feu les consume tous. Et la prédication semble glisser sur eux. Ils ne l'écoutent jamais. Ils veulent agir à leur guise. Vous pouvez leur dire ce que dit la Bible. Ils répondent, gardez votre Bible, nous voulons nous amuser. Je peux entendre certaines d'entre vous, mes sœurs, dire maintenant, peut-être pas en ton nom même, mais je vous entends dire, quoi? Moi? Obéir à mon mari? Oh, c'est moi qui ferai en sorte qu'il m'obéisse. Bon, c'est là où vous avez tort. Restez à la maison, modeste. Je ne m'occupe pas de ce que dit la Bible à ce sujet, laissez-moi tranquille. Écoutez, mes sœurs, nous ne remontons pas au Moyen-Âge, c'est la voix d'aujourd'hui qui vous parle. Cela n'est jamais arrivé dans les temps avant le déluge, cela arrive aujourd'hui, c'est la même chose. Elles disent encore, je suis une femme moderne, je vis en Amérique. Bon, c'est comme si vous viviez dans une porcherie. Dieu ne s'inquiète pas de l'endroit où vous vivez. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur, c'est vrai. Et ne croyez pas, mes sœurs, que vous êtes modernes, que vous êtes l'une de ces femmes modernes, comme vous aimez à le dire maintenant. Vous êtes très loin en arrière, selon la Bible. Au Moyen-Âge, dans les temps d'avant le déluge, de l'époque de Noé, quand elle faisait les mêmes choses que vous, au fond, vous n'êtes pas très modernes. Vous voyez? Les femmes agissaient de la même manière avant le déluge, vous voyez? Et c'est la façon dont vous agissez aujourd'hui. Alors, nous devons être retournés au Moyen-Âge, dans cette grande obscurité là-bas. Et vous, messieurs, qui laissez faire vos épouses, vous n'êtes plus des fils de Dieu. Amen. Non, en quelque sorte, vous tombez dans Sodome, c'est vrai. Vous vous laissez mener par les femmes. Oh mon Dieu, je ne sais plus quoi dire. Je ferais mieux d'abandonner le sujet. Mais très bien, c'est terrible. Mais toute cette époque que nous considérions, vous voyez la lumière rouge briller. la trompette du Seigneur retentira et le temps sera fini. Le matin viendra, éternel, éclatant et beau. Alors ses élus se réuniront de la poussière de la terre vers leur foyer au-delà du ciel. Oh, quelle journée ce sera! Très bien. Oui, retournez à Sodome, ne vous tracassez pas. Il y a une bombe, qui attend pour tout nettoyer, c'est vrai. Pour nettoyer le monde entier, elle le fera. Et puis tout renaîtra, comme nous l'avons vu dans le sixième sceau. Pour une poignée de gens qui ont abandonné leurs attaches et les modes de ce monde et sont venus vers Jésus-Christ et le contemplant lui seul dans son humble et simple programme. Ils sont venus et ils ont cru en lui. Ils ont reçu la vie éternelle. Et si vous dites que vous avez la vie éternelle et que vous êtes en désaccord avec la Bible, votre vie éternelle n'est pas la vie éternelle que donne Dieu. Vous vous êtes trompé par la mort et non par la vie, c'est vrai. Maintenant, oh, craignez Dieu et obéissez à sa parole, car ceci est le grand commandement. Les lumières rouges éclatent, le temps est proche, comme il l'était du temps de Noé, vous voyez? Ils ont pris la chose légitime et ils l'ont pervertie. Ils sont devenus gourmands et buveurs et ils se sont mis à bâtir et ils ont touché à tout. Ils ont tout perverti. Maintenant, Jésus attend que nous construisions une maison, vous voyez? Mais voyez comment ils ont fait cela? Manger, il sait que nous devons manger, car c'est vrai. Mais regardez ce qui est arrivé. Boire, nous devons boire de l'eau et tout cela. Mais au lieu de cela, ils se sont adonnés aux boissons fortes et aux liqueurs et autres, aux cocktails, entraînant leurs femmes avec eux, voyez? Et que dire de l'accroissement de la population comme à l'époque de Noé? Que dire de la beauté des femmes augmentant constamment? Vous voyez? La lumière rouge! Que dire de l'époque où les femmes viendront quand elles voudront, comme elles le voudront, des intellectuels, des érudites et tout? Les hommes ne pourront rien dire. Prêchez leurs paroles, elles feront exactement ce qu'elles voudront. Vous voyez? Qu'arrivera-t-il exactement? Exactement comme c'était à l'époque de Noé. Un jour, la porte du pardon sera fermée. Alors, l'Écriture... Oh, franchement, mes amis, je veux vous poser une question toute simple. Vous contentez-vous d'un moment où le monde entier est le détruire? Pendant que la miséricorde est là et que quelqu'un est là, Jésus-Christ est une porte ouverte ce soir. Ne voulez-vous pas le recevoir? Mes amis, maintenant c'est l'habitude de venir à l'autel, c'est cela. Je n'ai rien contre cela, mais l'Écriture dit que tous ceux qui croient soient baptisés. Si vous abandonnez votre vie à Jésus-Christ de tout votre cœur, à l'instant même où il vous a parlé, quand vous avez levé la main, ce même Dieu qui a pu rappeler à la vie, cet homme étant du mort devant moi ce matin, pour vous assurer que je vous dis la vérité, car Dieu seul peut ressusciter les morts, c'est vrai. Et aussi, n'est-ce pas votre petit pasteur fatigué ici présent? C'est le Christ qui vous aime. Il vous parle ce soir. Il vous dit, vous avez entendu la vérité, vous avez vu la vérité. Elle est dans ma parole. Vous avez vu ma parole ressusciter. Vous avez vu ma parole prédire ces choses. Vous la voyez se réaliser exactement, sans aucune défaillance pendant toutes les années. Maintenant, que ferez-vous pour Jésus? Pendant que la lumière rouge brille, pourquoi ne pas vous débarrasser de ce vieux sac plein des vanités de ce monde? Pourquoi ne rejetez-vous pas ce vieux magazine Histoire Vraie et ce vieux fatras dans lequel vous avez plongé votre esprit tous les jours? Pourquoi ne rangez-vous pas cette télévision dans un coin? Retournez-la si elle vous retient éloigné de l'Église. Pourquoi n'écartez-vous pas toute charge qui vous surcharge si facilement? Pourquoi n'élevez-vous pas votre cœur vers Christ pour lui dire, « Ô Christ, ce soir, j'ai fini, je me tiens prêt, je vois que tu viens, je ramasse la valise, la Bible de Dieu, qui est pleine de vie éternelle, et dorénavant, je vivrai d'après elle. » Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions? Oh, notre Père Céleste, ne voulant en aucune façon être irrespectueux, Seigneur, mais le message est destiné, non pas, oui, à autant à un individu, pas à une personne en particulier ici, mais il est destiné à ce temps. Il y a un moment que le Saint-Esprit me pousse, me presse de dire ceci. De très nombreuses fois, et cet endroit, nous avons montré l'époque de Lot, l'époque de Sodome, l'époque dont Jésus a parlé, les signes des temps, l'avenue du Seigneur de plusieurs façons. Et puis après tout cela, j'ai parlé si durement contre les femmes d'aujourd'hui de ce pays. Alors, Père, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Pour que je dise aux gens pourquoi j'ai fait cela, c'est parce que ta parole inspire tellement mon cœur que je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater. Quelques 50 ou 75 mains se sont levées dans la salle, Père, sur un mot sec et cassant du Seigneur. Mais la parole leur a donné un choc pour leur faire entendre que le sifflet retentit. Les saints sont réunis tous, les nations sont dépecées, les signes de sa venue, la lumière rouge. Et nous voyons par le comportement des femmes d'aujourd'hui, que nous avons souligné ce soir, que les femmes agissent ainsi que la Bible a dit qu'elles le feraient. La voix infaillible de Jésus-Christ nous a avertis d'observer l'époque de Noé, de la comparer avec celle que nous vivons. Et alors, quand nous aurons vu ces choses se réaliser, les femmes devenir belles, les fils de Dieu les prendre, comment ces choses arriveraient, alors nous savons que cette génération verra la venue du Seigneur. Alors la lumière éclatante nous fera connaître que sa venue est proche. Amen. Je prie notre Père Céleste de bénir chacun de ceux qui a levé la main. J'offre cette prière humble et sincère, et je sais qu'il m'entendra. Et si Dieu a été assez bon pour frère Wes ce matin et permettre qu'une humble petite prière fasse rebattre le cœur d'un frère bien-aimé qui était tombé, forme froide et morte, sur les genoux de sa femme, ô Seigneur, fais connaître aux gens ce soir que de mourir dans le péché et dans l'erreur est beaucoup plus dangereux que de mourir de mort physique.
Amen.
La personne ne peut vous rattraper si vous allez au-delà du voile en état de péché et d'erreur. Accorde-nous ce soir, Seigneur, que chaque âme qui a levé la main, oh, j'offre cette prière au nom du Seigneur Jésus pour qu'une telle révolution bouleverse leur vie, qu'ils aient une telle résolution dans leur cœur, qu'ils décident dans leur cœur de ne plus pécher contre Dieu, qu'ils s'appuient dès maintenant sur le Dieu éternel, sa parole bénie, et qu'ils soient nourris par son Saint-Esprit, et qu'à partir de ce moment, ils soient conduits jour après jour sur les sentiers de la vie. Ô notre Père Céleste, je peux ne jamais plus les voir, je peux ne jamais pouvoir leur serrer la main ici-bas, bien que j'aimerais le faire. Mais Seigneur Dieu, je t'en prie, exauce cette prière. Et tu as dit dans ton évangile, celui qui entendra ma parole et croira en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Par mon humble façon de révéler la vérité de Dieu ce soir, beaucoup ont entendu la parole. Maintenant tu as promis que tu les sauverais et qu'ils ne périraient pas. Qu'aucun homme ne pourrait les arracher de tes mains, que tu les ressusciterais au dernier jour, que pas un de leurs cheveux ne périrait, tu l'as promis. Maintenant je te fais cette prière, Seigneur, comme ton serviteur et comme l'un de leurs frères. Je t'adresse cette prière et je te les remets. Je les remets entre les mains de Dieu, qu'aucun mal ne leur soit jamais fait et que Satan ne les arrache pas des mains de Dieu. Ils sont à toi, ce sont tes trophées. Maintenant, je crois que tu leur donneras longue vie, et si possible, laisse-les voir la venue du Seigneur Jésus. Puissent-ils partir d'ici ce soir comme des âmes victorieuses pour parler aux autres, pour leur apporter une connaissance du salut en Christ. Accorde-leur tout, car tout est entre tes mains. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avons la tête inclinée pendant un moment, je me demande si quelqu'un présent ici sent que pendant que nous étions en prière, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans votre cœur. Vous sentez qu'à partir de maintenant, vous allez vivre une vie consacrée à Christ et que vous voyez que la venue du Seigneur est proche. Vous croyez que ce que j'ai dit est la vérité en ce qui concerne cette lumière rouge éclatante et de la façon dont les choses se passent. Et vous comprenez que c'est la parole du Seigneur parce que c'est Christ.
Amen.
Et à partir de ce soir, vous allez vivre une vie meilleure, plus près de la vie de Christ. Parce que la prière que vous avez faite ce soir est la confession que vous avez faite avec votre tête inclinée. Vous avez simplement levé la main et dit, je le crois. À partir de ce soir, je vivrai une vie différente. Alors que Dieu vous bénisse. C'est beau, c'est extraordinaire. Je crois pouvoir dire que pratiquement peut-être tous ceux qui ont levé la main il y a quelque temps l'ont levé de nouveau pour dire qu'ils étaient d'accord. Mais maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, rappelez-vous, il n'y a point d'autre nom sous le ciel parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés, autre que le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, il n'y a qu'une épouse, l'épouse de Jésus-Christ. Elle porte son nom. Maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé par immersion dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, laissez-moi, comme son serviteur, vous dire ceci. Si Dieu vous a prouvé par des signes et des miracles, et par sa parole que je vous dis la vérité, je vous commande, à vous qui avez fondé une poignée de baptistes, je vous commande, comme saint Paul l'a fait, dans le chapitre 19 des Actes. Ils avaient été baptisés par Jean le Baptiste. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ?» Ils ont répondu, « Nous ne savons pas même qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « Au nom de qui avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Nous avons déjà été baptisés par Jean-Baptiste dans le Jourdain. » Le même homme qui a baptisé Jésus-Christ. C'était un baptême extraordinaire. Mais Paul a dit, « Ce n'est plus bon maintenant. » Il leur a ordonné de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 19.5. Et Paul a dit, si un ange descend du ciel et prêche un autre évangile que celui que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Galates 1.8. Puis il a encore répété, comme je l'ai dit, je répète bien qu'il soit un ange, ne parlons pas d'un pasteur, d'un évêque, d'un pape, ou de qui vous voudrez, mais même si c'est un ange qui descend du ciel, un chérubin venu du ciel et prêche un autre évangile que celui-là, qu'il soit maudit. Alors, je vous commande, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, pendant que l'eau est là dans le bassin et que les robes attendent, venez et soyez baptisés, invoquant le nom du Seigneur, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux que notre Seigneur Dieu appellera. Maintenant, c'est à vous de décider. Ô mon Père Céleste, j'ai essayé de persuader les hommes, mais je ne peux pas le faire. Tu n'as jamais œuvré contre la volonté d'un homme. Parce que si un homme ou une femme est prédestiné à la vie éternelle, quand la lumière de Dieu illuminera cette graine, elle naîtra. Et si la vie est parmi nous ce soir, ô Père, daigne répandre ta lumière sur nous, qu'il voie la vérité, qu'il marche humblement et doucement vers le bassin, pour être baptisé au nom de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Nous savons que chaque personne dans l'Écriture était baptisée et rebaptisée. Ceux qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ devaient être rebaptisés. Et le grand apôtre qui avait les clés du royaume dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ » pour la rémission de vos péchés, pour que vos péchés soient pardonnés, et alors la promesse du Saint-Esprit sera pour vous. Ô Père, accorde-nous que ceci soit pleinement accompli ce soir. Je te les confie maintenant. Accepte ces quelques paroles et la méditation de mon cœur, et puissent-elles être agréables à ta vue, ô Seigneur. Exauce tes enfants et donne-leur la vie éternelle. Sauve tous ceux qui peuvent être sauvés et guéris ceux qui sont malades. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'eux, car nous te les confions maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, pendant que nous courbons la tête, je vais demander à notre sœur qui joue du piano de venir ici, seulement un moment, seulement environ 5 minutes, et s'il y en a qui désire être baptisé, qu'il fasse une confession, qu'il croit, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous croyez de tout votre cœur, pas simplement une émotion, mais si vous le croyez, si vous êtes prêt à confesser que vous êtes pécheur et que vous ne vous reposez pas sur vos propres mérites, mais sur ce que lui, le Seigneur, a fait, et que vous êtes prêt à avancer pour recevoir en son nom l'eau du baptême, à devenir un membre du corps par le Saint-Esprit, alors la salle des dames est à ma droite, la salle des messieurs est à ma gauche, avec des robes et tout ce qu'il faut. Pendant que nous courbons la tête, pendant que notre sœur joue le cantique, j'entends mon sauveur qui m'appelle. Si le conducteur de chant veut bien nous chanter quelques paroles de cela, baissons la tête. Maintenant, le service est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui désirent être baptisés, qu'ils veuillent bien aller dans la salle de prière pour implorer le Saint-Esprit. Il y a des instructeurs qui sont prêts à vous instruire et à faire ce dont vous avez besoin. Puissent mes paroles ne pas être dites en vain, mais qu'elles accomplissent le pourquoi elles ont été prononcées. Baissons la tête maintenant pour prier et suivons-le là où il nous conduit. J'entends mon sauveur qui m'appelle. Maintenant, priez, pécheurs. J'entends mon sauveur qui m'appelle. L'avez-vous entendu vous appeler quand il a ressuscité le mort ce matin? J'entends. L'entendiez-vous vous appeler quand sa parole faisait éclater cette lumière sur vous? J'irai avec lui jusqu'au bout. Voulez-vous aller jusqu'au bout? Oui, oh, que Dieu vous bénisse, mon frère. Les hommes sont à ma gauche, les femmes sont à ma droite. Où il me conduit, je le suivrai. Où il me conduit. La Bible dit, tous ceux qui croiront seront baptisés. Suivrai, j'irai avec lui jusqu'au bout. Je traverserai le jardin avec lui. Je traverserai le jardin avec lui. Je traverserai avec lui. Si quelqu'un veut aller avec les femmes là-bas pour rechercher le Saint-Esprit, allez dans la pièce à droite. Quelques-unes d'entre vous, sœurs, qui avez reçu, jusqu'au bout, où il me conduit. Pouvez-vous dire cela honnêtement? Où il me conduit, je le suivrai. Voulez-vous le faire? Et la petite voix qui vous parle, voulez-vous aller où il vous conduit? Regardez la lumière rouge. Voyez, la lumière étincelle. Nous sommes à la fin des temps. Où il me conduit, je le suivrai. J'irai avec lui jusqu'au bout. J'entends mon sauveur. Comment parle-t-il? Par sa parole dans votre cœur. Voulez-vous venir maintenant? Ceci est votre invitation. Rappelez-vous, si cela arrive, avant que nous soyons de nouveau réunis, vous devez être prévenus. J'entends mon sauveur qui m'appelle. Prends ta croix et suis-moi. Où il me conduit. Maintenant, les frères qui désirent des renseignements, allez dans la pièce ici à ma gauche, et que les frères veuillent bien se préparer pour le baptême. Que quelques frères pasteurs ici viennent nous aider. Venez dans la salle avec nous. Où il me conduit. Voulez-vous vraiment le faire? Suivez. J'irai avec lui jusqu'au bout. Maintenant un moment. Maintenant, si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a jamais eu une personne dans toute la Bible, pas une seule personne, qui ait jamais été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucune personne ne fut jamais baptisée dans l'Église pendant les 300 premières années de notre ère. Chacun était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au Concile de Nicée, où l'Église catholique romaine fut organisée. Alors ils décidèrent de la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y a un historien, un pasteur ou n'importe qui, sur bande magnétique, qui peut produire une écriture ou un brin d'histoire relatant que quelqu'un fut baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce que l'Église catholique romaine à Nicée changea la formule, c'est votre devoir de me l'apporter, je m'en excuserai. Mais cela n'existe pas, non! Et chaque personne qui était baptisée par immersion, sans être baptisée dans le nom de Jésus-Christ, on lui ordonnait d'être baptisé de nouveau. Avant d'entrer dans la gloire, maintenant, vous êtes avertis. Il n'y a aucune écriture dans la Bible où quiconque fut jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme les gens baptisent maintenant. C'est une croyance catholique romaine qui a été transmise par Martin Luther et John Wesley continua. Et la Bible prédit que ce sera comme cela. Et cela continuera jusqu'au dernier jour, mais la porte sera ouverte. Alors que nous traverserons les siècles de l'Église pour la voir, c'est à vous, je ne fais que de transmettre le message. Encore une fois, croyons-y, les portes sont ouvertes, le baptistère est rempli d'eau. Et il n'y a pas de raison, les robes sont prêtes, et nous serons prêts à baptiser dans quelques minutes. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore été baptisé, venez, Encore une fois, chantons. Voulez-vous? Vous dites, oh, j'ai l'intention de le faire un jour, frère Branham. Mais ce jour peut vous arriver, comme il est arrivé à frère West ce matin. Mais vous n'aurez pas la grâce d'y survivre. Vous pouvez mourir d'une minute à l'autre. Si vous êtes jeune, si vous vivez dans la nuit, oh, si vous avez 70 ans, vous survivrez à des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 30 ans, car des milliers d'entre eux mourront dans la nuit. C'est vrai. Vous ne savez pas quand vous partirez. Mettez-vous en règle. Ne courez aucune chance à ce sujet. Souvenez-vous, vous pouvez courir une chance dans votre travail, courir une chance sur ceci ou cela, mais ne courez pas de chance là-dessus. Et souvenez-vous, ma voix sera témoin sur la bande magnétique de Dieu au jour du jugement contre vous. Aussi maintenant, pensez-y, pendant que nous chantons la tête inclinée, ou Will, ou Frère Neville, maintenant, où il me conduit, je le suivrai. Où il me conduit, je le suivrai. Où il me conduit, je le suivrai. J'irai avec lui jusqu'au bout.